One of their political weapons is cancel culture.
En ligne de mire, les mouvements Black Lives Matter et MeToo qui empruntent à la cancel culture. Ils exigent que des personnalités accusées de racisme ou d'agression sexuelle soient mises à l'écart.
Dix petits nègres d'Agatha Christie, nouveau titre, ils étaient 10.
Moi, je pense que politiquement, c'est problématique de considérer qu'il est plus important de rappeler à l'ordre les gens qui s'expriment en étant en colère, etc., que le progrès social. Voilà.
L'écrivaine des Harry Potter a elle aussi expérimenté la colère des réseaux sociaux. Suite à des tweets jugés transphobes, plusieurs fans de la saga ont annoncé boycotter son œuvre. Alors la cancel culture est-elle une nouvelle dictature de l'opinion ?
Je pense que l'un des dangers que je vois parmi les jeunes gens, et en particulier sur les campus universitaires, et cela s'est accéléré avec les médias sociaux, c'est ce sentiment répandu chez les jeunes que si je veux changer les choses, alors il faut que je sois aussi critique que possible envers les autres. Et c'est tout. Si je tweet ou hashtag sur la façon dont vous n'avez pas bien fait quelque chose ou utilisé le mauvais mot ou verbe, alors je peux me rasseoir et me sentir plutôt satisfait parce que vous voyez à quel point je me suis mobilisé. Je t'ai interpellé publiquement. Ce n'est pas du militantisme. Cela n'apporte aucun changement.
Barack Obama en fin de ce montage réalisé par Alexandre Manzanares pour introduire cette fabrique médiatique consacrée ce matin à l'enquête que vous avez co-signée avec Jenny Bastier dans Le Figaro en début de semaine. Laure Mandeville, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes donc grand reporter au Figaro. Vous avez été correspondante aux États-Unis pour ce journal entre 2009 et 2016. Cette enquête est titrée « Cancel culture woke quand la gauche américaine devient folle ». Alors d'abord, Laure Mandeville, il faut expliquer de quoi l'on parle. La cancel culture, on commence à bien connaître. Mais ce terme « woke », qu'est-ce que cela signifie ?
Mais alors, le terme « woke », en fait, c'est un terme qui signifie « éveillé ». En anglais, et qui fait allusion à l'idée de ceux qui défendent cette idée, en fait, c'est que il y a des injustices sociales qui sont souvent cachées et qu'il faut débusquer en permanence. Et donc, les défenseurs, en fait, ceux qui veulent se battre en permanence, les justiciers sociaux, ceux qui doivent se battre contre les discriminations, doivent en permanence mener une sorte de vigilance sociale, une veille, du mot donc éveil, une veille sociale pour débusquer les discriminations là où elles se trouvent.
Voilà, dans votre enquête, on peut lire « Être woke pour un Afro-Américain qui adhère à la cause, c'est être en permanence vigilant quant au racisme et aux discriminations que l'on peut subir. L'être pour un blanc, c'est avoir conscience de ses privilèges. » Laure Mandeville, quel était le but de cette enquête et pourquoi l'avoir écrite maintenant ?
Oui, en fait, le but, c'était vraiment de faire le point d'une idéologie qui ne se contente pas de se répandre d'une manière assez vertigineuse à travers le paysage sociétal et politique américain. Donc, il a largement ce phénomène débordé des campus américains pour se répandre dans la société. Et il a joué un rôle très important, comme vous le savez, dans les derniers mois. Mais c'est qu'il est, il a aussi passé l'Atlantique depuis déjà en réalité plusieurs années, et il y a eu une forme de copier-coller de l'idéologie des justiciers sociaux qui se répand en France. Et donc l'idée était aussi non seulement de décrire mais d'alerter en fait sur les dérives de cette idéologie qui nous a paru être extrêmement dangereuse.
Alors on va en reparler de la France et la chute de votre enquête effectivement, mais d'abord voilà le principe des enquêtes. Enfin souvent c'est qu'elles reposent sur des faits, sur des informations. Là on est dans le domaine des idées. Vous avez même dit idéologie. On parle de choses difficiles à quantifier. Donc comment avez-vous procédé ? Comment avez-vous travaillé de manière pratique ? Comment avez-vous récolté les informations ?
De manière pratique, en fait, il faut d'abord dire que Jenny et moi, nous suivons ces questions chacune à notre manière depuis plusieurs années. Eugénie sur le terrain, je dirais, plus français, plus théorique, et moi peut-être d'une manière plus, une manière de terrain, puisque comme vous l'avez mentionné, j'ai été correspondante aux États-Unis pendant 8 ans, et que, évidemment, il ne m'a pas échappé quand j'étais correspondante, que ce phénomène se répandait, et j'avais déjà travaillé sur cette question-là en 2013 une première fois, et j'avais refait une enquête en 2015 quand il y a eu justement un certain nombre de phénomènes en fait et d'exclusions liées au phénomène woke. Et par exemple en 2015 vous avez eu une affaire à l'université de Yale, donc grande université américaine de la Ivy League, où un professeur qui s'appelait Nicolas Christakis et qui était responsable d'une maison d'étudiante, et donc il habitait avec sa femme au contact des étudiants, s'est retrouvé tout d'un coup accusé d'être un horrible raciste, parce que il a tout simplement avec sa femme écrit une lettre au moment d'Halloween pour les amener à accepter en fait que les gens se déguisent et de ne pas être choqués si quelqu'un se déguisait disons par exemple en se mettant du noir sur la figure ou en adoptant des tenues folkloriques, puisque comme vous, je ne sais pas si vous savez, il faut le dire aux auditeurs, ce fameux mouvement de justice sociale qui traque donc les discriminations raciales va de pair avec un appel à ne pas s'approprier les cultures qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que si vous êtes un blanc, disons, né dans le Midwest ou je ne sais dans une autre partie des États-Unis, mais que vous n'êtes pas, disons, latino ou afro-américain, vous n'avez pas le droit, selon cette idéologie, de vous approprier d'autres cultures. Et donc, ça a fait un tollé quand ils ont répandu cette lettre, et il y a eu une série de manifestations où des tas d'étudiants ont dit qu'ils avaient été offensés, que c'était absolument insupportable, et ce professeur est allé au contact pour essayer de s'expliquer avec eux. Il y a eu un certain nombre de petites vidéos d'ailleurs qui sont visibles sur cette question-là, et où il y a eu un énorme débat, des manifestations incessantes pendant des jours et des jours, et il a finalement été obligé dans un premier temps de se mettre en congé sabbatique. Il a finalement quitté Yale, alors que, par exemple, la société très influente des anciens élèves, qui sont tous dans l'ensemble, enfin pour la plupart des libéraux, mais au sens ancien du mot libéral, se sont retrouvés absolument stupéfaits que leur petit frère, c'est-à-dire les nouveaux étudiants, aient adopté une approche aussi aussi radical d'exclusion. Et donc ils avaient essayé de mettre le haut là, mais finalement ce professeur a dû s'en aller.
Alors donc, vous citez différents exemples comme ça effectivement dans cette enquête Lormandeville, et en même temps c'est un sujet très très délicat qui suscite beaucoup de débats, qui est souvent traité dans des tribunes. Comment à partir de là gérez-vous cette frontière entre votre position de journaliste et une position qui relèverait davantage de l'opinion, c'est-à-dire comment échapper à ce traitement un camp face à un autre? Est-ce que vous considérez vous-même dans cette histoire que vous êtes dans un camp?
Dans un camp, je ne sais pas. En tout cas, notre but, c'était vraiment de faire le point sur... En fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'aujourd'hui, notamment tout en faisant le point sur ce que c'était que la woke culture, cette culture de l'éveil, c'était montrer qu'il y a un certain nombre de libéraux, et donc qui se situent pour le coup à gauche de l'échiquier politique, qui se rebellent aujourd'hui contre ce phénomène. Et donc en fait, ce qu'on a fait essentiellement dans cette enquête, c'est leur donner la parole pour que eux décrivent comment ils voyaient ce processus, comment ils en voyaient les tenants et aboutissants, et éventuellement les dangers. Et donc, c'est surtout ce qu'on a fait, en fait.
Mais vous n'avez, en revanche, pas donné la parole, justement, à l'autre camp, entre guillemets.
Non. En fait, notre point de départ, c'était de donner la parole à ceux qui mettent en garde contre ce péril, parce que on a estimé que c'était le point intéressant, et que ce mouvement était par ailleurs décrit de manière extensive par dans toutes sortes d'autres publications. Donc on a pris délibérément cet angle-là.
D'accord. Et vous chutez donc sur la France, vous écrivez sur le plan des idées, les chassés croisés entre nos deux pays sont incessants. Là-bas, comme ici, l'intelligentsia libérale se réveille face aux excès, au déni d'une révolution qui dévore ses enfants. Aux États-Unis comme en France, cette guerre idéologique ne fait que commencer. Ce qui est intéressant, Laure Mandeville, c'est que cette semaine aussi a été publiée dans Le Monde une enquête de Zineb Drieff intitulée « Elle, genre, identité, cancel culture, le fantasme du péril américain ». On voit bien dès le titre que le contenu est différent et finalement elle, ce qu'elle dit dans son article et ce que disent les personnes qu'elle interviewe, c'est que finalement cette américanisation des esprits remonte à très loin et que c'est donc un fantasme. Comment analysez-vous le fait que vous arriviez à des conclusions si différentes? Est-ce que finalement ces enquêtes et ce qu'elles disent à la fin ne dépendent pas avant tout de à qui on donne la parole?
Non mais en fait, si vous voulez, ce qui me paraît assez problématique dans ce papier, c'est que parce que cette américanisation viendrait de loin, elle serait fantasmatique. Mmh. Il y a eu évidemment toujours depuis des années, enfin depuis en particulier dans les sujets qui nous intéressent depuis les années 60, des allers-retours entre la France et les États-Unis. Et c'est vrai que au départ, ce sont ce qu'on a appelé la French théorie, donc toutes les théories notamment du philosophe Michel Foucault qui sont passées de l'autre côté de l'Atlantique pour justement dans le but de déconstruire en fait un réel qu'on estimait marqué par le saut d'une vision qui était celle de la civilisation occidentale, qui donc devait être remise en question. Et donc les Américains s'en sont emparés pour des raisons qui leur étaient propres, et notamment dans les années 60, parce que ils se sont retrouvés confrontés à la violence et toute la remise en cause en fait les émeutes qu'il y a eu, le mouvement des droits civiques, etc. Et l'idée a été évidemment d'empêcher en fait les discriminations. Donc l'idée n'était pas une idée critiquable au départ. Ce qui est critiquable, c'est que si vous voulez, ce qu'on essaie de montrer dans cette enquête, c'est que vous avez eu en fait une jonction entre une idéologie et une bureaucratie. Et qu'en fait, cette bureaucratie, ce que je pense est un des éléments intéressants qu'on apporte, c'est qu'il y a eu la jonction entre les deux, que cette bureaucratie s'est finalement mise à fonctionner et à finalement mettre en place tout un certain nombre de règles sociétales, de langage, sur lequel on ne doit pas faire d'écart, donc surveillant finalement la manière dont les professeurs s'expriment, guettant les supposées discriminations qu'il pourrait y avoir dans leur curriculum, dans leurs cours, etc. Mais tout cela avec l'aval de la bureaucratie des universités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des professeurs, Sam Abrahams, qui nous explique qu'il a mené un certain nombre d'enquêtes qui montrent en fait que la majorité des étudiants ne sont pas favorables en fait à cette idéologie, qui sont en général beaucoup plus centristes, même s'ils sont tout à fait sensibles à la question de discrimination. C'est pas la question en fait. La question en fait c'est le refus d'accepter une idée autre. Et donc c'est si vous voulez la fin du libéralisme tel qu'on l'a connu.
Et la difficulté à parler et à débattre précisément. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Laure Mandeville. Votre enquête Cancel Culture Woke quand la gauche américaine devient folle, écrite avec Eugénie Bastier, est à retrouver sur le site du Figaro pour les abonnés. Nous rappelons aussi votre livre qui est vraiment Donald Trump, publié en 2016 aux éditions des Équateurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin.